Donc Marc 14, versets 53 à 72, page 1138-1139. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin, jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs, et il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme et en 3 jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leurs témoignages ne concordaient pas. Alors, le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant « Ne réponds-tu rien ? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous ? » Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors, un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents. Il fait partie de ces gens-là. Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen, tu as le même langage. » Alors, il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez !» Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait.
En droit français, il existe une procédure bien connue, la comparution immédiate, qui permet de juger très rapidement quelqu'un qui a été pris en flagrant délit. De fait, comme on dit, simple et établi. Donc quand la personne a été clairement prise en flagrant délit, on considère qu'il n'y a pas forcément besoin d'une enquête poussée et que c'est bénéfique pour tout le monde, y compris pour le prévenu, si les choses se passent assez vite et que le jugement est prononcé rapidement. Mais cette procédure, elle est sérieusement encadrée. Il y a des conditions spécifiques qui doivent être réunies. L'avocat du prévenu est présent et a accès au dossier. Et encore d'autres conditions, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Nous sommes arrivés aux dernières heures de Jésus avant la croix. Dimanche dernier, nous avons vu comment Jésus s'est rendu dans le jardin de Gethsémané pour y prier avec ses disciples. Et c'est là qu'il a été arrêté suite au complot organisé par Judas, l'un de ses disciples. Or, suite à cette arrestation, c'est à une sorte de comparution, enfin, c'est une sorte de comparution immédiate dans un sens que Jésus va subir. Seulement ici, pas de droit, ou vraiment très peu, pas d'avocat, pas d'encadrement, mais une scène violente, de plus en plus violente au fil du récit, pleine de diffamation et d'humiliation. On a déjà eu l'occasion de voir, en parcourant l'évangile de Marc ces derniers mois et même l'an dernier, nous avons eu l'occasion de voir que Marc écrit son évangile un peu comme un script, comme un scénario, avec une succession de scènes. Alors les événements sont véridiques, mais ils sont présentés dans un enchaînement bien réfléchi. Et c'est le cas dans cet extrait. Si on regarde bien, le décor est planté au début, verset 53, Jésus est emmené à l'intérieur de la maison du grand prêtre, et puis verset 54, Pierre, qui est resté dans les parages après l'arrestation, suit de loin et va attendre à l'extérieur de la maison du grand prêtre, dans la cour. Et la suite du texte va nous montrer successivement ces deux scènes qui sont annoncées au début. Jésus à l'intérieur de la maison du grand prêtre, on voit ça au verset 55 à 65, et ensuite Pierre à l'extérieur des versets 66 à 72. Je ne sais pas quelle a été votre réaction en entendant la très belle lecture du texte par Marie, mais une chose qui a retenu mon attention dans ce texte, c'est la solitude de Jésus. Il est seul face à ses ennemis, et même celui qui est son ami le renie. Et d'ailleurs, ce seront les deux temps de notre réflexion ce soir, seul face à ses ennemis et renié par son ami. Seul face à ses ennemis d'abord. Après avoir été arrêté de nuit dans le jardin de Gethsémané, le verset 53 nous indique que Jésus est emmené dans la résidence du grand prêtre. Nous sommes en pleine nuit, et pourtant les autorités religieuses les plus haut placées sont présentes. Donc on peut penser qu'elles avaient été prévenues à l'avance, dans le cadre du complot mis en place avec Judas. Ils sont prêts à mettre Jésus en accusation, et Jésus, de fait, est traduit devant eux. Verset 55, les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Le problème, c'est que c'est compliqué de faire un procès à quelqu'un qui a passé le plus clair de son temps, ces trois dernières années, à enseigner et à guérir. Et manifestement, on cherche quand même à préserver ici l'apparence d'un procès légitime. Il faut donner quand même le sentiment qu'on fait les choses bien. Alors je prends un gros risque en donnant cette illustration, j'espère ne pas trop choquer. Mais je vous livre ma réaction, après vous en faites ce que vous voulez. Ça m'a rappelé un petit peu, par exemple, les assemblées générales lors des blocages de fac. On sait très bien quelle sera l'issue. Il n'y a pas vraiment de discussion sur le fond, mais on appelle ça une assemblée générale et on veut donner quand même une apparence de conformité juridique. Bon, ici, bien sûr, l'enjeu est beaucoup plus grave et, entendons-nous bien, la comparaison s'arrête là. Mais dans le procès de Jésus, on essaye quand même de mettre les formes. On sollicite des témoignages. Et à l'époque, il y a une notion clé, c'est que pour qu'un témoignage soit accepté, il faut que deux témoins concordants témoignent ensemble du même fait ou des mêmes événements. Et là, manifestement, ça ne colle pas. Verset 56, « Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. » Marc ne nous donne pas de détails, mais ça semble aller dans tous les sens. « Il a dit cela, moi je l'ai entendu dire cela. » Mais au verset 58, une accusation plus précise se profile. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme et en trois jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Marc, en présentant cette accusation, est clair, c'est un faux témoignage, verset 57. Mais cette fausse accusation est pernicieuse parce que c'est une déformation de la vérité plutôt qu'une invention totale. Dans son évangile à lui, Jean nous rapporte cette parole de Jésus. Jean 2, verset 19, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Donc ça ressemble pas mal aux paroles qui sont rapportées dans notre texte. Mais d'une part, ce n'est pas identique. Et il y a une différence majeure, c'est que Jésus n'a jamais dit qu'il détruirait le temple. Et puis surtout, Jean précise immédiatement après le sens de cette parole, versets 21 et 22 du même chapitre 2, « Il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Donc en parlant d'un temple reconstruit en trois jours, Jésus parlait non pas littéralement du temple de Jérusalem, et d'ailleurs il semble avoir un peu compris ça, puisqu'il est question d'un temple qui ne sera pas fait de main d'homme, il ne parlait pas littéralement du temple de Jérusalem, mais de son corps ressuscité. Alors bien sûr, si les accusateurs de Jésus avaient vraiment compris ce qu'ils voulaient dire, ça aurait été encore plus choquant, selon leur vision des choses, que ce qu'ils pensaient. Parce que si Jésus n'a pas parlé de détruire le temple, il affirme en revanche que le véritable temple, c'est-à-dire le véritable moyen de rencontrer Dieu, de bénéficier de sa présence et de son pardon, ce n'est pas ce bâtiment majestueux de Jérusalem, mais c'est lui-même, le temple véritable, c'est lui, Jésus. Alors la référence au temple, ça nous parle moins en France au XXIe siècle. Mais cette affirmation reste centrale dans la foi chrétienne. C'est par Jésus qu'on rencontre Dieu. Jésus est celui qui est venu pour que nous puissions nous réconcilier avec notre Créateur. Jésus est celui par qui Dieu se fait connaître. Et l'appel de Jésus résonne encore aujourd'hui pour tous ceux et celles qui veulent savoir, alors d'abord qui est Jésus, c'est le plus important, et par là même qui nous sommes, d'où nous venons, et ce pourquoi nous avons été créés. Pour savoir en fait qui nous sommes vraiment, nous devons comprendre qui est Jésus et pourquoi il est venu. Jésus nous dit à l'unisson, le Nouveau Testament, Jésus est le chemin, le seul chemin qui conduit à Dieu. Or, cette rencontre avec Dieu, elle est possible justement parce que Jésus, cette nuit-là, est allé jusqu'au bout. Il n'a pas résisté à ses ennemis. Il a donné son corps, il a versé son sang. Il s'est livré à une mort sacrificielle pour subir non pas le jugement hypocrite et corrompu des hommes pécheurs, mais le jugement juste de Dieu contre le mal commis par les hommes, contre le mal que nous avons commis et dont nous avons été complices de bien des manières. Et en fait, il me semble que c'est toute l'ironie de la scène. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, un double procès a lieu. Il y a le procès visible, le procès injuste des pécheurs contre Jésus, et puis il y a le procès invisible, le procès juste de Dieu, non pas contre Jésus, mais contre les pécheurs. Ceux qui sont dans la position des accusateurs de Jésus sont en fait sur le banc des accusés au tribunal de Dieu. Mais c'est Jésus qui se présente pour subir la peine à leur place. Et une fois de plus, Jésus n'est pas passif face à ce qu'il s'apprête à vivre. Au contraire, on voit qu'il prend à nouveau les devants. Il y a quelque chose qui me frappe dans le déroulement de la première partie du texte. On a le sentiment, jusqu'au verset 61, que l'accusation tourne dans le vide. Jésus reste silencieux, les témoignages ne collent pas, et on se demande presque si ça va tourner au fiasco pour les accusateurs de Jésus. Mais il y a un tournant au verset 61. Le grand prêtre demande à Jésus, « Es-tu le Messie ? Es-tu le roi qui doit libérer Israël ? Es-tu celui qui doit régner éternellement ? Es-tu le Messie, le Christ ?» Et cette fois, Jésus va répondre. Et quand on arrive à ce verset 62, où Jésus répond à la question du grand prêtre, on doit avoir à l'esprit le fil conducteur de tout cet évangile de Marc. Depuis le début de ce livre, la question clé qui n'arrête pas de se poser, c'est « Qui est Jésus ? Qui est-il vraiment ?» Et après avoir progressivement donné des signes de qui il est, de son identité, eh bien Jésus ici répond sans détour, verset 62, « Je le suis, c'est-à-dire le Messie, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Si j'ose dire, Jésus fait monter la température de pas mal de degrés tout d'un coup. Parce qu'il ne se contente pas de dire « Oui, je suis le Messie », il reprend à son compte une image de l'Ancien Testament, une image du prophète Daniel au chapitre 7, image assez mystérieuse, où on voit un personnage à la fois humain et céleste qui reçoit de Dieu une autorité universelle sur toute la création. Et donc en prononçant ces mots, Jésus dit « Oui, je suis le Messie et vous me verrez régner avec Dieu avec une autorité universelle et éternelle. » Et là, c'est le tournant. Verset 63, « Alors le grand prêtre déchira ses vêtements. » C'était à l'époque un signe de consternation qui était connu, on déchirait ses vêtements, et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous ? » Tous le condamnèrent déclarant qu'il méritait la mort. Voilà enfin pour ces accusateurs une charge gravissime et qui va coller, le blasphème. Il n'y a pas plus grave. En France, ces jours-ci, on parle pas mal de droit au blasphème. Ou en tout cas, on en parlait pas mal avant le virus. Alors, droit au blasphème, je passe sur cette expression et le débat parfois surréaliste autour d'elle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Israël, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de droit au blasphème. Ça, c'était clair. Or, Jésus vient de se présenter comme un Messie divin, venu régner avec Dieu et partager sa gloire. Et d'ailleurs, en passant, on voit qu'en disant cela, en parlant de son règne, Jésus lève le voile sur l'espérance, au-delà de la croix, sa victoire, son règne. Mais le sang du grand prêtre, en entendant ça, n'a fait qu'un tour. Blasphème ! Et ce qui est frappant, c'est que dans un sens, les accusateurs de Jésus ont raison dans tous les scénarios, sauf un, celui où Jésus est vraiment le Messie, celui où il dit la vérité. Or, si Jésus est bien le Fils de Dieu, Dieu fait homme, alors qui est en train de blasphémer dans ce récit ? L'ironie est saisissante. Après avoir accusé Jésus de blasphème, ses accusateurs vont blasphémer de la manière la plus grave qu'on puisse imaginer, en crachant sur Dieu incarné, en le frappant et en se moquant de lui. Qui blasphème ? En lisant la description de ces accusateurs et de la violence contre Jésus, on voit l'effet de meute, hein, c'est une réaction humaine qu'on connaît bien. Les gens voient que ah, ça y est, on peut y aller, on peut l'outrager, on peut le frapper, bah, tout le monde s'y met. En lisant la description des accusateurs, on peut très facilement se distancier d'eux et les voir comme des crapules, des méchants notoires. Mais une chose qui doit nous interpeller, c'est que ceux qui se trouvent en train de juger Jésus, peut-être pas tous ceux qui étaient à le frapper, etc., mais ceux qui sont membres du Sanhédrin et qui jugent Jésus, c'était des gens bien, c'était des gens respectables, qui faisaient partie de l'élite religieuse et politique du pays. C'était des gens qui, certainement, achetaient leur pain à la boulangerie et disaient bonjour dans la rue. Le problème fondamental de ces chefs religieux n'est pas que c'était des voyous, mais plutôt, fondamentalement, qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cru qui est Jésus. Et donc, ils sont incapables d'accepter la vérité qui vient de lui. Et là, on voit à quel point la question « qui est Jésus ?» est tellement fondamentale et change tout, la réponse qu'on apporte à cette question. Parce que si Jésus n'est pas celui qu'il dit être, alors ce qu'il dit est insupportable. En revanche, s'il est bien celui qu'il dit être, alors ce qu'il dit est la vérité. Il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas adoucir les affirmations de Jésus sur lui-même. Pour reprendre une expression utilisée récemment, ça passe ou ça casse. Et en fait, qui est Jésus ? C'est la question la plus essentielle qui soit posée à qui que ce soit. Il n'y a pas de question plus importante que qui est Jésus ? Et si c'est une question que vous vous posez, qui est vraiment Jésus ? Pourquoi ne pas consacrer les 5 prochains mardis soirs à participer à Horizon Dieu ? Vous n'avez rien à y perdre, au contraire, un cadre convivial, une ambiance chaleureuse, l'humour légendaire de Paul Harrison qui anime cette rencontre, des discussions libres. Et nous croyons que si vous entendez l'appel de Jésus, vous avez tout à y gagner. Maintenant, pour ceux parmi nous qui sommes chrétiens, la question que nous pourrions nous poser est la suivante. Est-ce que nous vivons d'une manière qui fait que les gens autour de nous se demandent qui est Jésus ? Non pas qui est Matthieu ou qui est Marie ou qui est... Non, qui est Jésus ? Est-ce que nous vivons d'une manière qui suscite cette question ? Et je me pose cette question à moi-même, bien sûr. Ou est-ce que, comme Pierre, nous avons honte de lui, nous sommes gênés par ses paroles si entières, et au moment où notre foi est mise à l'épreuve, il n'y a plus personne ? Quand ça ne nous coûte pas grand-chose, on y va sur les affirmations à propos de Jésus, mais quand on pourrait y perdre des plumes, là c'est beaucoup plus compliqué. Et ça nous amène à la seconde scène, plus brièvement, reniée par son ami. On est peut-être tellement habitué à l'histoire de Pierre, si on connaît la Bible, qu'on perd de vue peut-être sa gravité. Et je confesse que moi-même, face à ce texte, j'ai souvent eu tendance par le passé à insister sur la différence entre la trahison de Judas et le reniement de Pierre, en disant « c'est quand même pas la même chose ». Et dans un sens, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais avec le temps et en retravaillant ce texte, je prends mieux conscience de la gravité extrême de l'acte de Pierre. Lorsqu'une servante l'accuse d'avoir été avec Jésus, verset 67, commence par noyer le poisson, comme on dit. Alors je paraphrase « pardon, de quoi tu parles ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Et c'est parfois une tentation, lorsque nous voulons éviter de mentir totalement, de faire semblant de ne pas comprendre. Pierre déjà se montre lâche et dissimulateur. Mais on note qu'il y a un crescendo. Au verset 69, il est accusé à nouveau, et cette fois, Marc nous dit qu'il nie franchement connaître Jésus. Mais le pire est encore à venir. Au verset 71, alors qu'il est repéré pour son accent galiléen, je ne sais pas ce que ça donnait, un accent galiléen, mais en tout cas, les gens de Judée, de Jérusalem, l'entendent, qui vient d'une autre région. Et Pierre, là, va beaucoup plus loin. Il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Les commentateurs débattent du sens exact de ce que Pierre dit ici. Est-ce que Pierre a juré sous peine de malédiction contre lui-même que ce qu'il disait était la vérité? Autrement dit, Pierre aurait dit quelque chose du genre « Si je mens, que Dieu me maudisse, je ne connais pas Jésus. » C'est terrible. Pierre rend un faux témoignage. Donc, il rompt l'un des 10 commandements et il le fait sous serment et il renie son ami et il ose invoquer Dieu pour cela. C'est terrible. Certains commentateurs pensent que ce que Pierre a fait est pire encore que cela et qu'il aurait prononcé une malédiction contre Jésus. « Je ne connais pas ce Jésus, qu'il soit maudit. » Pour ma part, je ne suis pas forcément convaincu par cette seconde lecture, mais en fait, la première est suffisamment grave. Et quel contraste avec Jésus. Accusé, Jésus dit la vérité de Dieu en sachant pertinemment que ça le condamne à mort. Tandis que Pierre fait de Dieu un menteur en jurant devant Dieu qu'il ne connaît pas Jésus. C'est un drame personnel qui se joue à tous les niveaux. Jésus est totalement abandonné. Et Pierre, qui peu de temps auparavant avait déclaré « Tu es le Messie !» Eh bien désormais, il dit publiquement ne pas le connaître. Quel drame, quel échec terrible. Jésus l'avait pourtant annoncé quelques versets plus tôt, Marc 14, verset 14, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, toi tu me renieras trois fois. » Et là, Pierre avait bombé le torse en disant « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Où est passé ce Pierre-là? Il n'en reste plus que l'ombre. Un homme accablé de honte qui n'a plus qu'à s'enfuir et à pleurer d'amertume. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cet épisode si tragique, si triste? D'abord, quand même une mise en garde. Jésus avait prévenu dans ce même chapitre, verset 38, « L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Dans l'épisode du jardin, quelques heures auparavant, donc, Jésus a invité Pierre et ses compagnons à être spirituellement éveillés, alors à être littéralement éveillés, et à être spirituellement éveillés et proches de Dieu dans la prière, pour ne pas tomber dans la tentation. Et c'est décisif pour tout disciple aujourd'hui encore. En entretenant aujourd'hui notre relation avec Dieu, nous nous préparons à vivre l'épreuve lorsqu'elle surviendra. Pierre n'était pas préparé à l'épreuve. Est-ce que nous le sommes? Est-ce que nous sommes préparés à l'épreuve? On peut se poser la question, même par rapport au contexte que nous connaissons, avec toutes les questions que cela peut poser. Est-ce que nous sommes préparés à l'épreuve? C'est en grandissant aujourd'hui dans notre relation avec Dieu que nous pourrons vivre l'épreuve dans la foi, dans la fidélité avec lui demain. Mais il y a une leçon plus positive, pleine d'espérance, que nous pouvons retenir aussi. Même si elle implique de tricher un peu et de savoir ce qui se passe plus tard dans l'évangile de Marc. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, pour Pierre, ce n'était pas la fin de l'histoire. Le surlendemain de cet épisode, après la résurrection, l'ange dira aux femmes ayant trouvé le tombeau vide, « Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Je trouve ça frappant de voir que Pierre est mis à part. N'oubliez pas de le dire à Pierre aussi, qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. Et Jean nous raconte dans son évangile à lui, au chapitre 21, comment Jésus, avec une stupéfiante finesse, a réhabilité Pierre en l'amenant à dire trois fois « Je t'aime » pour annuler ces trois reniements. Pierre a cru tout perdre. Dans un sens, son désespoir et ses larmes, à la fin du chapitre 14, n'est pas si éloigné du désespoir et des larmes de Judas racontées dans les autres évangiles et qui mettra fin à ses jours. Mais si Pierre n'a pas tout perdu cette nuit-là, c'est précisément parce que Jésus, lui, est allé jusqu'au bout. C'est parce que Jésus, lui, a dit la vérité. Il s'est laissé accuser faussement, torturer et moquer pour qu'un pauvre pécheur, décevant, prompt à chuter, comme Pierre, comme moi, comme vous, puisse, c'est parce que Jésus est allé jusqu'au bout et a dit la vérité qu'un pauvre pécheur peut voir l'espérance poindre à nouveau après un terrible échec. Si pour Pierre ce n'était pas la fin de l'histoire, c'est parce que Jésus est allé jusqu'au bout. Et que là où Pierre a totalement échoué, Jésus, lui, a parfaitement réussi. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que l'obéissance de Jésus, sa mort à notre place et sa résurrection sont le socle sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Parce que notre vie à nous n'est pas un socle solide. Ma vie à moi n'est pas un socle solide. Mais Jésus, ce qu'il a fait pour moi, ça demeure éternellement. Et c'est sur ça que je dois bâtir ma vie. Et peut-être que c'est un peu fantaisiste, mais je me demande quand même si le choix du chant du coq comme signal de l'échec de Pierre n'était pas aussi subtilement porteur de la promesse d'un jour nouveau. Je ne sais pas quels ont été vos échecs dans la foi, vos échecs dans la vie chrétienne, je connais les miens. Certains ce soir sont peut-être accablés de honte en pensant à telle faute, ancienne ou récente, à telle attitude intérieure. Mais l'épisode du reniement de Pierre nous dévoile la puissance bouleversante du pardon que Dieu nous offre. La puissance de la croix, on l'a chanté tout à l'heure. Et voilà la bonne nouvelle au cœur de notre foi. Il n'y a rien que nous puissions faire pour effacer le pardon de Dieu accompli à la croix. Car son pardon est plus puissant que nos fautes. Nous sommes appelés à nous attacher de toutes nos forces et à ne jamais quitter celui qui est passé par la plus extrême solitude, par la plus inconcevable souffrance, pour que nous ayons l'assurance de vivre avec lui pour toujours. Et dans le cas de Pierre, le pardon de Jésus a été transformateur. Le Pierre honteux et lâche de cette nuit funeste deviendra l'apôtre courageux qui va parcourir le Moyen-Orient et l'Europe pour annoncer cette bonne nouvelle qui a changé sa vie. Jésus est mort pour nous, au troisième jour il est ressuscité, il est vivant, toute autorité lui a été confiée et il revient. Amen.